Si vous voulez suivre le texte de ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11. Alors, je n'ai pas le numéro de la page, mais c'est le chapitre 11. Peut-être un souffleur en premier rang, peut-être. Pas de souffleur. 783. Et 788. C'est moi qui suis dur. Les souffleurs sont bons, c'est juste moi qui suis dur de la feuille. Ésaïe 11, les versets 1 à 10. Puis un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton. Et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble. Et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère. Et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Dans le bulletin, vous pouvez trouver témoignage de cette belle expérience de mardi, où un certain nombre d'entre nous se sont rendus à la gare Montparnasse pour chanter des chants de Noël. Et à cette occasion, un homme de la quarantaine est venu écouter ces chants et à la fin, on a pu échanger un peu. Et il disait qu'il avait été frappé par le contraste entre la grisaille ambiante, les gens stressés à l'idée de prendre un train ou de partir, et cette chorale qui sereinement chantait des cantiques de Noël. Et en discutant avec lui, j'ai appris qu'en fait, il était en transit à la gare Montparnasse. Il devait prendre un train le lendemain matin. Et il n'a pas de domicile fixe. Il vit de petits boulots ici et là. Il va d'un endroit à un autre. Et dans la conversation, il était assez optimiste par rapport à l'avenir, malgré le fait que ça fait des années que cela durait. Et il a dit cette petite phrase, ce dont je me souviens en tout cas. « Au printemps, je devrais retrouver une situation plus stable. » Le printemps, c'est la saison où la vie reprend son cours. Le printemps, c'est la saison où la vie reprend son cours. Et je me souviens, en l'entendant, en l'écoutant, avoir été un peu sceptique en l'écoutant dire qu'il suffisait d'attendre le printemps, là où les choses reprennent leur cours, pour trouver une situation plus stable. Le texte qu'on vient de lire lui rentre lui aussi dans l'image de la nature, de la biologie, mais il est encore plus surprenant, dans un paysage de désolation où on trouve des arbres coupés ou brûlés, il ne reste que des souches, on nous annonce qu'une petite pousse va pousser, et avec elle, c'est l'annonce d'un nouveau monde. C'est pas des millions de bourgeons, des milliers de rameaux, c'est un seul rameau. Et avec lui, l'annonce d'un nouveau monde. Il y a de quoi être sceptique au départ, et on aura besoin de comprendre ce qu'Ésaïe veut nous communiquer. Et je vous invite à voir ce qu'Ésaïe présente en deux temps. Un nouveau roi dans les versets 1 à 5, et un nouveau monde dans les versets 6 à 10. Un nouveau roi, 1 à 5, un nouveau monde, 6 à 10. Un nouveau roi. Le message d'Ésaïe au chapitre 6, c'est que la nation, à cause de sa corruption, est comme un arbre qui va être coupé, abattu. Tout ce qui va rester, c'est une souche. Et cette souche, elle représente le petit reste fidèle, de ceux qui sont restés fidèles à Dieu, attachés à lui. Et cette image d'arbre coupé, on la retrouve au chapitre 9, au chapitre 10. Au chapitre 9, il s'agit là des chefs de Juda qui seront comme des branches coupées. Et au chapitre 10, on découvre que c'est l'Assyrie qui est comme une scie, comme une hache, c'est l'image utilisée. Mais on apprend aussi dans ce chapitre 10 qu'elle-même sera jugée, l'Assyrie sera jugée. Et on découvre à la fin du chapitre, c'est verset 33, « Voici que le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, brise les branches avec violence, les plus hauts arbres sont abattus, les plus élevés sont jetés par terre. » Imaginez la scène. Vous avez devant vous une étendue, un champ de désolation. Des arbres ont été coupés, brûlés, il ne reste que des souches. Et c'est là, dans ce contexte-là, qu'on entend « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. » Il y aurait de quoi être sceptique par rapport à ce rameau. Déjà, que représente cette souche d'Isaïe? C'est qui Isaïe? Isaïe, pas Ésaïe. C'est qui Isaïe? C'est le père de David, du roi David. Mais Isaïe, il n'est pas très connu dans la Bible. Ce n'était pas un héros, ce n'était pas un roi, ce n'était pas un prophète. On le connaît justement parce qu'il est le père de David. Et c'est l'occasion de rappeler que Dieu a fait surgir un des plus grands rois, sinon le roi référence dans l'Ancien Testament, le roi David, d'un illustre inconnu. On peut se demander pourquoi Ésaïe, pour présenter ce nouveau roi, ne parle pas du fils de David. Après tout, David, c'est la référence. Tous les autres rois qui vont régner à Jérusalem sont comparés à David. C'est lui la référence, la lignée. Mais ici, Ésaïe présente ce nouveau roi comme le fils d'Isaïe. Comme un nouveau David, en fait. Pas simplement un de ses descendants. C'est un peu comme si, pour présenter le PDG actuel de l'entreprise Apple, on avait le choix entre le présenter comme le successeur de Steve Jobs ou un nouveau Steve Jobs. Pensez bien que le deuxième, nouveau Steve Jobs, ça donne l'idée, waouh, on aura affaire à quelqu'un qui va révolutionner encore. Eh bien, le roi dont il est question ici, le nouveau roi dont il est question, est à la fois présenté comme quelqu'un qui aura des origines modestes, comme Isaïe, mais quelqu'un dont on peut attendre beaucoup. Et ce qui est dit de lui par la suite nous dit qu'on a affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Dans les textes d'Ésaïe 7 et 9, c'est un bébé, un petit enfant qui nous est présenté. Ici, c'est un adulte qui est présenté dans les versets 1 à 5 avec son caractère tout particulier, mais aussi sa manière de régner. Ésaïe commence en affirmant que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et il poursuit avec trois paires de caractéristiques qui sont liées à l'Esprit. En tout, c'est 7 références à l'Esprit pour dire qui est ce roi. On le retrouvera dans la deuxième partie, mais il y a certainement une symbolique dans ce chiffre 7. Signe pour Ésaïe d'une plénitude. Pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, vous vous souvenez peut-être d'Élisée qui a demandé une double part de l'esprit qu'avait son maître Élie. Ici, c'est 7. 7 références à l'esprit. À la différence des juges, où par exemple, un juge va voir l'esprit fondre sur lui dans une situation donnée, l'esprit ici va reposer en permanence sur ce nouveau roi. Et Ésaïe détaille de la façon suivante, ce roi a un esprit de sagesse et de discernement, les caractéristiques de quelqu'un qui sait bien gouverner, bien diriger. sagesse sur un plan large, mais aussi discernement dans des décisions précises à prendre. Ce n'est pas seulement un nouveau David, c'est un nouveau Salomon, avec toute la sagesse dont il aura besoin. Mais il est aussi esprit, il a aussi un esprit de conseil et de puissance. C'est à la fois un bon stratège, mais quelqu'un qui sait mettre en œuvre ses bons plans. Et que ce soit dans le choix de remaniement ici pour le gouvernement en France dernièrement, ou dans le choix d'une équipe présidentielle pour le prochain président aux États-Unis, on voit, on écoute comment les uns et les autres sont choisis comme meilleurs conseillers ou comme meilleurs équipiers, collaborateurs. Mais à chaque fois, on a quand même la critique qui nous vient d'un côté ou de l'autre, des médias ou des politiques, pour remettre en question leurs compétences, même si ce sont les meilleurs qui sont recherchés. Ici, et comme on le voit dans le chapitre 9 d'Ésaïe, celui dont on parle est présenté comme merveilleux conseiller, Dieu puissant. Il a la sagesse de Dieu. Il est parfaitement avisé et il est tout puissant pour réaliser ses projets. Mais ce roi a aussi un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, des dispositions intérieures qui font de lui quelqu'un d'exceptionnel. La connaissance, la crainte de l'Éternel, autrement dit, il est tellement lié à Dieu dans sa manière de vivre que ça oriente tout son règne. Il est dans une saine dépendance vis-à-vis de Dieu. Il craint Dieu de manière positive pour vouloir lui plaire dans tout ce qu'il fait. Au-dessus de toute autre autorité, c'est à Dieu lui-même qu'il veut plaire. Il n'est pas dans une prétention d'autosuffisance, un sentiment qu'il peut vivre comme il veut. Non, il s'inscrit dans la volonté de Dieu, dans ses désirs à lui. Et cette crainte, elle influence sa manière de régner. Au verset 3 et 4, il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. N'adressera pas de reproches sur la base d'un ouï-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. On entend parler de non-respect de la présomption d'innocence. On entend parler d'une justice à double vitesse. On entend parler de procès déguisés. On entend parler de corruption, d'injustice, de crimes non condamnés. Ça ne sera pas le cas avec lui. Ce nouveau roi est présenté comme perspicace et juste, droit, intègre. Et remarquez au verset 4 que sa puissance est telle qu'il lui suffit de dire une chose, de parler, et la justice est appliquée. Pas besoin plus que du souffle de ses lèvres pour intervenir efficacement. Et Ésaïe termine sa description du nouveau roi en disant que la justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Habillé de cette manière, c'est dire qu'il est prêt pour l'action, intérieurement disposé à faire tout ce qu'il a à faire. Pourquoi s'arrêter sur ce passage d'Ésaïe ce matin? Pourquoi pas nous plonger directement dans les évangiles pour lire les circonstances de la naissance de Jésus ou par la suite de son ministère? Pourquoi ne pas y aller directement? Pourquoi s'arrêter sur l'Ancien Testament? C'est utile de rappeler que toutes les Écritures, et Jésus le dit lui-même, témoignent de lui. Les apôtres, quand ils vont être assistés par l'Esprit, vont retourner dans ces Écritures pour voir comment elles annonçaient le Christ. Et cette prophétie d'Ésaïe, elle nous permet de prendre un peu de recul et de considérer celui qui est présenté comme un nouveau roi. C'est l'occasion aussi de voir le caractère improbable de sa venue. Après être né d'une souche, d'un arbre qui a été coupé, il va pousser comme un rameau, un rejeton, quelque chose qui paraît insignifiant au départ. Il y a les années de silence où les prophètes ne parlent plus. La nation qui est sous l'Empire romain, un roi qui n'est pas de la lignée de David, Hérode sur le trône, et c'est lui qui s'avance. Jésus vient au devant de la scène dans les évangiles, non pas en ayant fait une grande école, il n'a pas tout un bataillon de personnes influentes qui le recommandent, il n'a pas les 500 signatures, mais il s'avance. Il s'avance. Il vient au devant de la scène avec un seul témoin, Jean le baptiseur, et un peu original, faut le reconnaître, habillé de poils, dans le désert, à manger du miel sauvage, des sauterelles. Mais lui aussi avait été annoncé par Ésaïe et Malachie pour préparer la venue de ce roi-là, de ce nouveau roi. Et au moment où Jean baptise Jésus, l'Esprit va descendre sur lui sous la forme d'une colombe pour y rester. Il est bien celui qui est revêtu de l'Esprit. Il est bien celui qui entend la voix de son Père qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et dans l'Évangile de Luc, on voit comment il se rend à Nazareth, dans la synagogue, pour lire ces paroles du prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Tous les regards sont fixés sur lui. Il lit les paroles d'Ésaïe 61, mais c'est aussi ces paroles ici qui s'accomplissent. Il est au bénéfice du Saint-Esprit. Et tout au long de son ministère, son jugement est juste. Il est équitable. Tout le monde le voit. Il voit derrière l'hypocrisie des responsables religieux. Il voit dans le cœur de ceux qui sont en marge, les lépreux, les aveugles, les prostituées, les collecteurs d'impôts. Il est puissant par sa parole. Il guérit, il ressuscite les morts, il chasse les démons, il calme la tempête. La crainte de l'Éternel se voit dans le fait qu'il se soumet à la volonté de son Père dans le jardin et qu'il est prêt à aller jusqu'au bout dans sa tâche, qui consiste à mourir à la croix en prenant sur lui le jugement que nous méritons. Il est venu ce roi annoncé, le royaume de Dieu s'est approché et par sa résurrection, il dit qu'il a autorité sur tout, dans le ciel et sur la terre, il a autorité et ses disciples doivent l'annoncer partout. Le nouveau roi est venu. Et il y a de quoi être émerveillé. Il y a de quoi être émerveillé de ce roi qui avait été annoncé 700 ans plus tôt et qui est bel et bien venu, avec un mélange d'attendu et d'inattendu. Il est venu. Toute l'humanité méritait son jugement. Chacun d'entre nous, on méritait un jugement, on méritait d'être coupé. Et il est venu, ce roi, plein d'humilité, plein de bienveillance. Ésaïe, on le voit juste après ce chapitre 11, rédige une sorte de cantique, de prière. Et je vous invite tout simplement à faire vôtre les premières paroles. Elles sont dites à la première personne du singulier. Chacun d'entre nous, si on a reconnu en Jésus le roi, on peut faire ces paroles nôtres. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel. Car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Est-ce que c'est votre prière ? On passe ensuite à un nouveau monde dans les versets 6 à 10. Il y a quelques années, je me souviens avoir vu un documentaire qui présentait une lionne qui avait retenu l'attention des médias dans un parc naturel au Kenya. La lionne en question avait adopté une antilope et non seulement elle ne la mangeait pas, mais elle la protégeait des autres prédateurs. Et bien sûr, tout le monde voulait accourir pour voir de quoi il s'agissait. C'est totalement inattendu. Ça paraît même contre nature. Tellement inédit qu'ils l'ont surnommée Camuniac, celle qui est bénie. Et dans le reportage, on entendait que pour certains, c'était l'accomplissement de ces paroles ici dans Ésaïe. En réalité, si effectivement elle ne s'en prenait pas à cette antilope, un lion a tué cette antilope. Et même si à 5 reprises, elle a refait la même chose, les observateurs qui ont pris le temps de l'observer ont réalisé qu'en fait, chaque antilope était dans une condition un peu de prisonnier. Ces antilopes adoptées, elles ne pouvaient pas partir. Elles ne devaient pas partir. Une des questions qui est soulevée avec ces versets 6 à 10, c'est quand est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que c'est déjà réalisé? Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. Comment comprendre ces versets? Déjà, on peut noter l'aspect poétique de ces paroles, quelque chose de magnifique dans les exemples qui sont donnés, aussi dans la répétition. On trouve de nouveau le chiffre 7. 7 paires totalement inattendues, les ennemis de toujours, qui sont réunis ensemble. Et on constate que ce n'est pas simplement une paix extérieure, ils sont changés à l'intérieur. Leur alimentation a changé. La vache et l'ours auront un même pâturage. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. Transformation radicale. De manière imagée, c'est comme si Ésaïe décrivait un paradis retrouvé. Un paradis retrouvé. Sans dire que les carnivores n'existaient pas, Genèse 1, verset 30, nous parle uniquement de l'herbe comme nourriture pour les animaux. Et c'est ce qu'on retrouve ici. C'est ce qu'on retrouve ici. On comprend par là que l'harmonie qui a été perdue avec la chute, cette harmonie des origines est retrouvée. Et ce parallèle avec le Genèse, eh bien, c'est confirmé avec l'allusion au serpent. Verset 8, « Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. » Avec la désobéissance des humains, on a une hostilité entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Hostilité qui traverse les âges. Mais ici, l'enfant peut mettre sa main dans la grotte du cobra. Il n'est pas seulement en sécurité, c'est même cet enfant qui conduit tous les animaux qui se laissent conduire, verset 6. Et on commence à saisir que cette paix retrouvée par les animaux, c'est une manière de parler de nous les êtres humains, et d'une fin, de la fin d'une brutalité, de la fin de cœur dur, d'une haine, d'une hostilité, d'un orgueil dominateur, d'une avidité, d'une cruauté dont nous sommes capables. Le cœur des humains sera radicalement changé. Combien de personnes sont esclaves aujourd'hui ? On estime à 35,8 millions de personnes prisonnières sous une forme ou une autre. Et les mineurs sont particulièrement vulnérables. Environ 50 000 mineurs disparaissent chaque année en France. Quant aux meurtres, on estime qu'il y a entre 500 et 600 meurtres commis par jour dans le monde. C'est un meurtre toutes les deux minutes. Sans compter les guerres. Je discutais l'autre jour avec un serrurier et il disait que l'essentiel de son temps est consacré à des affaires de justice ou judiciaires. Et il a fait une petite remarque qui m'a frappé. On ne réalise pas ce qui se passe derrière les portes. On ne réalise pas ce qui se passe derrière les portes. Référence au nombre de perquisitions qu'il a dû faire pour un crime, pour un adultère, un abus. La maison, l'endroit par excellence où on devrait être en sécurité, eh bien c'est le lieu de tous ces crimes, de tous ces abus. Et ici, Ésaïe nous décrit la sécurité parfaite. À l'intérieur d'une maison, mais même à l'extérieur, un enfant peut aller dans n'importe quel endroit, être en sécurité. La paix, la sécurité parfaite. Alors, est-ce que c'est un accomplissement présent ou passé? Non, c'est bien un accomplissement futur dont il est question. Et Ésaïe 65, verset 17, là aussi où il est question d'un nouveau monde, sera utilisé par Pierre pour dire que conformément à sa promesse, nous attendons un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Et si Jésus, le roi, est bienvenu, le royaume s'est approché, il peut quand même enseigner à ses disciples à prier « Que ton règne vienne ». On attend un accomplissement futur. Comment expliquer l'aspect radical de ce changement qui doit venir? Comment expliquer ce qui va se passer? Bien, tout a commencé avec la venue d'un simple rameau, de ce nouveau roi, pour proclamer un royaume qui s'est approché en sa personne, dans lequel on entre par la foi en sa parole, par son esprit. Et le royaume commence donc à l'intérieur de nous, de ceux qui ont reçu cette parole, qui ont cru en lui. Mais au verset 9, Ésaïe synthétise et donne à la fois un résumé de ce nouveau monde et une explication. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Symbole de la présence de Dieu, la montagne sainte, ce ne sera pas pour restreindre, non, c'est pour dire ensuite que toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. C'est de cette façon qu'est éradiqué le mal, parce que la connaissance de l'Éternel va remplir toute la terre. Il sera présent partout. Et l'image pour le dire, c'est comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Au chapitre 8, la Syrie est présentée comme un fleuve qui déborde, qui va avoir un raz-de-marée jusqu'au cou de la nation. Ici, ce n'est pas un fleuve, c'est un océan. C'est l'océan de la gloire de Dieu. Une pression que vous pouvez expérimenter quand vous allez sous l'eau, de plus en plus bas, comme un poids de gloire, de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que ça devrait avoir comme implication? On a déjà dit notre émerveillement tout à l'heure. Au verset 10, il veut nous amener à aller plus loin. On l'a entendu dans certaines prières tout à l'heure. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. Il faut aller plus loin. On ne peut pas se cantonner à Israël. Et dans le chapitre 15 de sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul y reviendra sur certaines paroles ici. Il va parler du rejeton d'Isaïe, il va parler de la gloire de Dieu, du fait de s'accueillir, quelles que soient nos origines. Et après avoir dit tout cela, il dit ses projets d'aller plus loin. Il veut aller en Espagne pour annoncer cette bonne nouvelle du roi qui est venu. Et il nous pousse, nous aussi, à réfléchir. Comment est-ce qu'on va aller plus loin dans l'annonce de ce message ? Une des applications, ça sera certainement de réfléchir à notre rôle, individuellement, collectivement, dans l'annonce de ce roi qui est venu, de sorte que tous puissent connaître Dieu et vivre de cette connaissance, équipés par son esprit, dans la crainte de l'Éternel, dans un désir de lui plaire. Est-ce qu'on va participer à cette annonce ? Et devant une tâche aussi énorme, on peut se dire, mais moi je ne suis pas à la hauteur, et on ne l'est pas. Mais dans ce verset 10, il doit y avoir un encouragement. Il est question là de la racine d'Isaïe. Si vous avez regardé au début, ce n'est pas une racine, c'est un rameau d'Isaïe. Faute de frappe? Ou alors, Isaïe, il n'est vraiment pas bon en botanique. Hein. Racine, rameau, c'est tout la même chose. Non, pour lui, c'est une manière de dire que ce nouveau roi est à la fois celui dont il est issu et celui qui est issu de lui. Pour reprendre les termes de Jean, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et la fin. Toute l'histoire est entre ses mains. Il tient toute l'histoire entre ses mains. Et c'est dans la confiance en lui qu'il maîtrise toutes choses que nous pouvons avancer pour annoncer ce message. Et je vous invite de nouveau à faire vôtre. Et si vous voulez le lire dans Ésaïe 12, à partir du verset 3, cette prière qui est maintenant à la deuxième personne du pluriel, ce cantique, et si vous voulez le lire, lisez-le maintenant. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen.